France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Est-ce qu'on a enfin passé ce cap où avant les réveillons, celui qui apporte le vin fait d'abord le tour des invités? Est-ce que quelqu'un ne boit pas d'alcool? Est-ce qu'on en est même arrivé au point où, sachant qu'il y a parmi les convives des sans-alcool, celui qui apporte les bouteilles arrive en disant « Je t'ai déniché une bouteille de quelque chose de très particulier sans une goutte d'alcool, on va le tester ensemble ». On n'en est pas tout à fait là, soyons clairs. Mais peut-être bien qu'on en prend le chemin, parce que franchement, ceux qui n'aiment pas le vin, ceux qui ont arrêté, ceux qui attendent un enfant, enfin celle plutôt, ceux qui sont sous médicaments, ceux qui préparent une compétition sportive, ceux qui ne supportent plus, ceux qui n'ont pas le droit pour des raisons religieuses, ça commence quand même à faire du monde. Est-ce que tous ceux-là sont condamnés à manger des huîtres avec un soda tranche? Est-ce qu'on peut leur offrir autre chose que « je t'ai mis une brique de jus d'orange dans le frigo » Bien sûr que oui, c'est dans ces caves-là que l'on va entrer ce soir, en se demandant d'ailleurs si on appelle ça quand même des caves. Le sans-alcool peut être qualitatif, il peut être cérémonial si on a envie, il peut surtout s'accorder avec des plats de très grande qualité. Certains chefs ont même pris les devants, certaines chefs avec deux F, Anne-Sophie Pic a fait entrer dans sa carte des boissons, des thés, des cafés, des infusions, des breuvages qui se marient aux saveurs de l'assiette, elle a fait des émules. Nous parlerons dans un instant avec Manon Fleury, mais pas seulement. Il y a une révolution en marche qui de toute façon se lit dans les chiffres, on boit beaucoup moins d'alcool, on boit beaucoup moins de vin, mais à la place s'inventent mille choses qui se goûtent, qui se dégustent. Il y a un champ énorme entre un champagne de grand cru et un jus de pomme dans une bouteille à dévisser. Vous avez découvert des choses étonnantes, peut-être, que vous voulez nous faire partager. Vous avez un caviste sans alcool, et ben nous aussi, figurez-vous qu'on en a même deux. Vous avez été étonné de mélange de saveurs, vous êtes au bon endroit. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, Véronique, vous êtes la première, vous êtes en Haute-Loire et on vous salue, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, merci.
Allez-y Véronique.
Alors voilà, donc moi depuis l'année dernière, je fais ce qu'on appelle des mocktails, c'est-à-dire des cocktails sans alcool. Et je prends les recettes, je ne sais pas si je peux dire le site sur internet.
Bon si, vous savez, allez-y.
Ouais, c'est le site Marmiton, où il y a plein de choses. Voilà, très simple, au niveau de la nourriture aussi, vraiment facile. Donc ce sont des recettes. Là, la dernière fois, j'avais des amis, j'ai fait un mojito sans alcool, une sangria sans alcool, et ils ont adoré. Et en plus, on peut mettre des couleurs en ajoutant une petite trait de grenadine, un trait de menthe, des fruits, des choses comme ça.
Après,
on peut le décorer aussi comme un vrai, quoi, avec la pique et peut-être des fruits piqués, voilà.
Comme un vrai, voilà. Comme vous dites.
Oui.
Véronique, c'est marrant parce que vous dites « depuis l'année dernière ». Ça veut dire que, en fait, vous avez eu une épiphanie ou c'est vos amis qui vous ont dit « non mais attendez... »
Non, voilà, pour tout vous dire, je suis malade alcoolique. Donc okay. Je suis abstinente depuis 3 ans et la première année d'abstinence, je ne pouvais pas aller dans des soirées ou recevoir des amis parce que avoir de l'alcool, c'était pas possible. Et ben après, j'ai dit « bon, bah, les amis, si vous venez à la maison, vous voulez de l'alcool, vous l'amenez et vous repartez avec la bouteille hein, parce que je veux pas que ça traîne chez moi.
Ouais. »
Et puis là, je me suis dit « flûte, hein, on va passer à autre chose. » Et puis voilà, et donc là, à Noël, avec mes enfants, je vais faire un punch sans alcool. Donc, il y aura des fruits, des glaçons colorés, parce que je mets des bouts de fruits, en fait, dans des glaçons, ou un trait de sirop dans un glaçon. Des glaçons colorés, parce qu'on trouve ça très facilement dans les magasins. Et puis voilà, quoi.
Et puis, super. Véronique, merci beaucoup.
C'est génial, c'est beau, c'est coloré, c'est décoré, et c'est pareil, on n'y voit que du...
Voilà, c'est beau, c'est coloré, c'est décoré. On va la garder, cette phrase, on va l'afficher. Véronique, je vous remercie beaucoup. Avant de vous présenter nos invités, je vais vous présenter une autre Véronique, là sur WhatsApp, qui dit « Bonjour, je n'ai jamais pu boire d'alcool », dit-elle. « Elle, moi, je suis intolérante, maux de tête, etc. » Et enfin, dit-elle, c'est le « enfin » qui nous intéresse, enfin, à 63 ans, on n'entend plus les autres convives m'expliquer combien je suis pisse-froid, je vous passe quelques expressions plus salées, nous dit Véronique, une emmerdeuse, etc. Enfin, dans les restos, nous trouvons des boissons sympas et originales sans alcool, et il était grand temps, c'est ce que nous dit Véronique. Je vous salue tous les deux. Sarah Missaoui, bonsoir d'abord.
Bonsoir.
À vous. Vous êtes fondatrice de la cave bar sans alcool déjà bu, avec un point d'interrogation, c'est dans le 11e, vous avez écrit le guide du sans alcool, c'est chez Marabout et c'est cette année. Augustin Laborde est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes venu équiper, bravo Augustin, vous êtes fondateur du Pan qui boit. C'est une cave qui est spécialisée dans les boissons sans alcool, deux adresses à Paris, le 19e, le 14e. Vous êtes co-auteur aussi de deux livres, Sans alcool, mille et une boissons pour un nouvel art de vivre, c'était chez Massin l'année dernière, et puis Paris sans alcool friendly chez l'Indispensable, Paris en 2024. En lisant votre petite bio, Augustin Laborde, je me rends compte qu'on dit donc caviste, on dit cave spécialisée, même si on n'a pas besoin de les descendre à la cave en fait.
Exactement, on a repris le terme de cave, on l'a décliné en cave sans alcool, en soi on pourrait l'appeler boutique spécialisée, peu importe. L'important c'est que les gens rentrent, testent et apprécient.
Ce que j'entends dans nos deux invités, et il y en aura beaucoup comme ça quand je vois arriver les messages, c'est, alors pour d'autres raisons, hein, Véronique a un passé d'alcoolique, il a fallu trouver autre chose, donc c'est assez récent, mais l'autre Véronique, elle c'est plus longtemps, mais enfin, elle peut l'afficher en disant « moi je bois pas d'alcool » et elle a pas l'impression de tomber de la lune. Est-ce que c'est nouveau ça, Sarah Misaoui, réellement ? Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois on se dit « c'est en train de venir ». Mais en même temps, pas tout à fait. Il y a aussi plein de messages là qui disent quand même « qu'est-ce que vous êtes rabat-joie sur France Inter ?»
Ouais.
On en est où là en ce moment ?
C'est lent. Hein.
Ouais, c'est très lent.
La transformation, elle est lente.
Ouais, ouais.
Ça nous demande beaucoup de travail, beaucoup de pédagogie, parce qu'encore aujourd'hui, on associe l'alcool aux festivités, aux retrouvailles, aux bons moments, aux moments de partage. Et donc, faire comprendre qu'il existe aujourd'hui des milliers de boissons sans alcool qui apportent autant de plaisir, autant de moments, d'occasions pour ouvrir une belle bouteille, ça prend du temps. Mais bravo aux deux Véroniques, j'ai envie de leur dire. Elles sont pas seules, parce que nous, des clients comme ça, on en croise tous les jours. On en a accompagne et on en conseille énormément, et au-delà de ça, je pense que des émissions comme aujourd'hui, elles sont nécessaires pour arrêter de nous traiter de rabat-joie, parce qu'en fait, c'est tout un monde à découvrir et qui est hyper enrichissant.
Juste avant qu'on rejoigne Manon Fleury qui nous attend au téléphone, Augustin Laborde, moi ce que je vois, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans vos bouteilles, mais je vois que c'est des bouteilles, que ça peut ressembler à n'importe quelle bouteille. Il y a aussi beaucoup de ça en fait, parce qu'on a l'impression que, en fait, on a l'air ridicule quand on trinque avec quelqu'un d'autre, mais ce qui a changé, j'ai l'impression, vous m'arrêterez si je me trompe, c'est que là, sans alcool, j'aurais le même verre que Sarah, si elle choisissait, elle, de remplir le sien d'alcool, par exemple. On ne verrait pas la différence. Le côté cérémonial aussi, si je veux le garder, je peux le garder, en fait.
C'est exactement ça qui est en train de changer, c'est qu'on voit, concrètement, on reprend les codes des bouteilles champenoises, vous avez le pop quand vous allez ouvrir, on a un verre à pied, les étiquettes sont jolies, enfin, là, il n'y a plus besoin de se cacher qu'on ne boit pas d'alcool, parce que la bouteille est en plastique, moche, etc. Là, enfin, on a des belles bouteilles. Et bien, ce qui est aussi intéressant, pour rebondir sur ce que disait Véronique, notamment, c'est qu'en fait maintenant vous avez tous les gens qui ne peuvent pas boire d'alcool, qui se mettent au sans alcool, mais vous avez surtout tous ceux que nous on va appeler les flexi-buveurs, flexi-drinkers, donc qui continuent à boire de l'alcool mais qui vont associer les deux. Et les différentes études de marché, ce que nous on voit au quotidien, c'est que c'est majoritairement ces gens-là qui continuent à boire mais qui vont aussi se mettre un peu de temps en temps au sans alcool.
Je sais que c'est le coup de feu, mais c'est gentil de nous donner 4 minutes, 5 minutes. Manon Fleury, bonsoir.
Bonsoir. Je suis littéralement dans la cave de mon restaurant.
Vous êtes dans la cave. Ah bah, tout va bien.
Ouais, on est dans le thème, c'est bien.
C'est bien. Votre restaurant s'appelle Dattil, Manon Fleury. Vous êtes à Paris dans le 3e. Vous avez une étoile. Il y a plusieurs choses avec l'alcool dans la jeune génération de chefs que vous êtes. Ça veut dire qu'on peut manger qualitatif sans vin. Est-ce que vous diriez que ça n'aurait pas forcément été possible il y a encore 5 ou 10 ans ou pas ?
Alors, je pense que depuis 5 ans, le changement, je pense qu'il est enclenché depuis 5 ans. Moi, ça fait à peu près effectivement 5 ans que j'ai eu cette réflexion-là, en me disant qu'en fait, ça pouvait être très intéressant d'amener cette démarche et cette réflexion autour du sans-alcool dans des accords, même avec les plats, en fait. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse les chefs, au départ. Et moi, c'est une question que je me suis posée quand j'ai fait une résidence au Perchoir avant l'ouverture de Dattil, où on proposait un accord sans-alcool, qui était vraiment en accord avec les plats. Et en allant aussi dans d'autres restaurants, j'ai goûté d'autres accords, et je me suis dit que même parfois, c'était presque plus pertinent que des accords avec les vins. Et ça a fait tilt en me disant, en fait, c'est hyper intéressant et on peut proposer ça comme alternative au vin au restaurant sans que ça prenne toute la place, pour laisser quand même la part belle au vin, parce que c'est tellement bon. Mais en même temps, en ayant ce côté inclusif et en permettant aux personnes qui, effectivement, ne souhaitent pas boire d'alcool,
d'avoir la même expérience, en fait.
D'avoir des propositions qui sont aussi intéressantes et d'avoir la même expérience au restaurant.
Est-ce que les plats sont pensés aussi du coup, pour ceux qui ne vont pas les accompagner d'alcool, parce que un vin derrière, ça relève, ça fait péter une saveur dans le palais qui n'aurait pas forcément explosé de la même manière. Est-ce que du coup, on repense les plats ou est-ce que même on les repense encore mieux quand on change les textures de la boisson, les saveurs, les odeurs, qu'on va vers du thé, des infusions, on change complètement parce qu'il faudra que ces choses-là s'accordent. Enfin, c'est un autre boulot, quoi, Manon Fleury.
Oui, c'est un autre travail, mais c'est vraiment une autre contrainte pour la créativité qui est hyper intéressante. Je pense qu'en fait, ça change pas forcément la manière de composer les plats, mais c'est un accord qui est différent. Et clairement, nous, par exemple, ça peut être source de créativité pour compléter un plat. En ce moment, par exemple, on a un plat à base de radis et de poire, et on propose une infusion sans alcool avec les épluchures de poire. Qu'on récupère et qu'on fait infuser et qu'on propose dans cette infusion. Et clairement, il y a un accord à faire avec cette première entrée, radis et poire, avec la poire qu'on retrouve dans le plat. Donc en fait, et en plus de ça, il y a derrière une démarche zéro déchet qui est hyper intéressante, qui est aussi une vraie contrainte intéressante pour la créativité et qui permet justement d'avoir cette alternative sans alcool pour les personnes qui n'en boivent pas.
Et qui est liée au sens politique de la cuisine qui est la vôtre, hein, dérèglement climatique, gaspillage, indépendance alimentaire, tout va avec, y compris avec ce que vous nous dites. Ce que je trouve intéressant, à chaque fois qu'on est, et après je vous laisse Manon, c'est promis, à chaque fois qu'on est dans le sans-alcool, dans les restaurants gastronomiques, c'est qu'au fond, ce qui vous intéresse, c'est pas le vin sans alcool, c'est autre chose, en fait, c'est faire une autre expérience, une autre texture, une autre expérience, vraiment.
Exactement, c'est une autre boisson. Et moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez à propos du cérémonial. Je trouve que ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, nous, on a une carte avec des boissons sans alcool, mais qui sont faites par d'autres personnes, avec des personnes hyper intéressantes qu'on a envie de mettre en avant. Nous, on a Elsa Stelé, qui fait un travail merveilleux, qui est en Alsace, Adeline Paulus, qui est dans le Pays Basque, et qui nous permettent de présenter des vraies bouteilles aux clients et qui vont dans le sens de ce cérémonial autour de la boisson qui accompagne les plats et qui va au-delà du jus de fruits qui casserait parfois l'équilibre d'un plat si on l'accompagnait notamment un menu dégustation comme on le trouve chez Datil.
Je vous remercie mille fois, je vous laisse à votre cuisine Manon
merci
Fleury,
beaucoup.
Merci beaucoup, je sais que vous êtes encore là aujourd'hui et demain, après ce sera le 31, donc on vous laisse finir et puis merci beaucoup, merci de ces petites minutes avec nous Manon Fleury. C'est intéressant ce qu'elle dit Manon Fleury, Augustin Laborde, moi ce que j'ai retenu c'est la contrainte de créativité, en fait, que ça apporte en plus. La contrainte de créativité est contenue dans ces bouteilles que vous avez devant vous.
Oui, exactement. En gros, vous aurez deux grandes familles dans les boissons sans alcool. Vous avez celles qui vont chercher à reproduire un peu l'expérience de ce qu'on connaît avec l'alcool. Bah, évidemment, on connaît tous les bières sans alcool. Véronique parlait du mojito, ça marche très bien sans alcool.
Ouais.
Là, je vous ai ramené un exemple, c'est un vin pétillant, c'est désalcoolisé, c'est du chardonnay. Ça peut être critiqué pour diverses raisons, mais le fait est que ça existe et que ça s'affine de plus en plus. Et puis à côté, vous avez plein de créations dont Manon parlait à l'instant, beaucoup plus créative, qui ne cherche plus à copier quoi que ce soit. Et là, l'horizon, il est sans limite, c'est passionnant, c'est peu sucré, bio, fait en France, etc.
Dans la deuxième, il y a quoi, par exemple ?
Alors là, très concrètement, c'est notre première boisson faite maison avec nos amis d'Archipel. Donc là, c'est une infusion fermentée de basilic et de piment.
Okay.
Donc il faut aimer le piment, ça relève, justement, c'était l'idée voilà, d'avoir quelque chose qui, au milieu du repas, peut-être, va venir réveiller
un peu. Est-ce que vous êtes venu avec des verres, je vous en prie, on a le droit, puisque c'est sans alcool.
Exactement.
Donc, ce que je trouve intéressant, Sarah Missaoui, là pareil, Augustin est venu avec un vin sans alcool et autre chose, c'est qu'en effet, le sans-alcool, c'est pas forcément faire semblant, c'est-à-dire on prend du vin, sauf qu'il a pas d'alcool, c'est vraiment inventer autre chose.
Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui dans notre travail de recherche, parce qu'on passe quand même nos journées à chercher des nouvelles boissons.
Je vous interromps, Augustin, vous pouvez faire du bruit. Hein.
Oui, mais je...
C'est vraiment
très
pas
bien,
un problème.
Essayez
de pas défoncer le micro.
Exactement, c'est ça l'idée.
Allez-y, ça remet ça.
Oui, je disais que le travail de recherche est hyper intéressant. Aujourd'hui, on a tellement d'aliments qui nous entourent et qui sont sous-exploités. Je pense à toutes ces boissons, par exemple, à base de verjus.
Le verjus.
C'est le raisin vert.
Ah, pardon.
C'est le jus du raisin vert qu'on utilisait beaucoup au Moyen-Âge pour apporter de l'acidité, qu'on utilise toujours en cuisine pour apporter de l'acidité dans les plats, pour conserver certains plats. Aujourd'hui, on le retrouve dans beaucoup de boissons qui sont hyper intéressantes. Dans les restaurants, on travaille avec beaucoup de restaurants. C'est vrai qu'on essaye de trouver la boisson parfaite. Et là, on peut créer la boisson
ça
parfaite.
Ça veut dire que ça se choisit, un sans-alcool, ça se choisit exactement comme une boisson alcoolisée normale, en fait. fait. Merci Augustin.
Ouais, mais du coup ça se crée même dans certains restaurants et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment créer la boisson qui va aller parfaitement avec tel plat. Mmh. Et je pense que là l'expérience elle est complète. J'ai des clients qui m'ont raconté, parce que j'ai pas encore eu la chance d'aller chez Madame Pic, mais j'espère pouvoir y aller, et ils ont pu faire les deux accords avec et sans alcool, et ils m'ont dit que l'accord sans alcool les avait vraiment bouleversés parce que ça allait parfaitement, encore plus que le vin, avec ce qu'il mangeait, parce que la boisson, elle avait vraiment été créée pour ce plat.
Elle en parle beaucoup, Anne-Sophie Pic. Est-ce que c'est elle, la révolution, en fait, quand les grands chefs s'autorisent ce genre de choses, exactement comme il y a le premier qui devient vegan, le premier qui arrête de mettre du vin à chaque plat. La révolution, elle commence là.
Elle a cette liberté, là, de pouvoir proposer ça, et c'est génial. C'est vraiment une précurseur. Moi, j'observe avec beaucoup d'attention ce qu'elle propose. Je trouve ça exceptionnel. Ce qui est génial aussi, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de restaurants à Paris, comme Manon Fleury, mais d'autres restaurants sans pour autant être étoilés, proposent ce type d'expérience. Et là, on atteint vraiment ce qu'on recherche, c'est-à-dire un moment de plaisir, un moment de partage.
Et on a hâte que tous les restaurateurs, quel que soit le niveau, du prix, etc., s'y mettent aussi. Il y a vraiment un gros travail à faire.
Il est pas mal ce petit chardonnay.
Oui, voilà, c'est du chardonnay désalcoolisé, c'est 0,0, c'est vegan, bio, etc. Quoi.
Voici Damien qui est à Paris. Bonsoir Damien.
Oui, bonsoir.
On cherchait un chef, et ben c'est vous.
Alors moi je suis un chef populaire, moi je m'appelle Chef Damien, et en fait j'ai un restaurant à Paris, et il y a juste après le Covid, j'ai décidé de créer toutes mes boissons, parce que j'en pouvais plus des boissons industrielles, et je voulais être aligné sur une cuisine locale, des vins bio-biodynamie, parce que mon frère est vigneron, et j'ai commencé à créer mes boissons, et en fait c'est des boissons à base, c'est légèrement sucré à base de plantes. Alors, donc en fait au départ c'était une petite création comme ça, puis après j'ai commencé à travailler avec des vrais producteurs, des cueilleurs de plantes sauvages, etc. Et en fait je me suis aperçu que je pouvais pas imaginer qu'on allait en vendre autant, en fait. Parce que moi j'étais vraiment plutôt un bistrot à vin, et ça marche très fort. Et aujourd'hui j'ai presque tendance à vendre plus de boissons sans alcool que de verres de vin au restaurant. Et ça a tellement bien marché, parce qu'en fait on sait des boissons sans bouteille. En fait, ça a libéré mon bar, ça a libéré ma cave, etc. Et après, on a créé une petite marque et qu'on est en train de distribuer dans 800 restaurants. Mais... Et on est au Panqui Bois aussi.
Exactement.
Et en fait, c'est une marque qui s'appelle Naissance. Et en fait, au départ, moi, je suis vraiment du monde du bistrot et du vin. Et j'aurais jamais pu m'imaginer que ça pouvait cartonner autant et qu'il y a autant d'intérêt pour des boissons naturelles.
Et est-ce que vous avez senti, Damien, justement, parce que vous dites que ça cartonne maintenant, est-ce que vous avez senti des gens qui vous disaient « Ah ben ouf, en fait, on attendait que ça ?» Est-ce que vous avez senti qu'il y avait vraiment cette demande-là, qu'on sorte, comme je le disais tout à l'heure, du « t'as qu'à prendre un jus d'orange si tu bois pas de vin, quoi ».
C'est ça. Et en fait, j'ai des milliers de témoignages de gens qui me disent « Ah, enfin, déjà, parce que moi je bois pas d'alcool, enfin on propose des boissons sans chimie, enfin on sort de, vous savez, des marques qu'on voit partout, là. Ah » ouais. Et en fait, le fait d'avoir de la liberté, le fait d'avoir une dizaine de boissons, et avec on va écrire les qu'est-ce qu'il y a dedans. Par exemple, on a une boisson à base de menthe, mais il y a de la menthe poivrée, de la mélisse, de la verveine citronnelle, du bourgeon de pin sauvage. Et bien, tout ça fait que les gens se disent « Mais je veux rentrer dans cet univers, j'ai envie de... » Et puis, on peut le proposer sur eau plate, eau pétillante aussi, parce qu'on est fabricant de boissons. Et en fait, c'est la liberté pour les gens de choisir ce qu'ils ont envie à la carte. Et en fait... Avant, quand je vendais des boissons industrielles, je faisais 100 couverts à midi, je vendais 5-6 boissons industrielles. Et là, aujourd'hui, tous les midis, je vends 30-35 boissons fait maison. Et parce que les gens veulent retrouver du sens, de la gourmandise et cette naturalité avec les plantes.
Merci beaucoup, Damien. Merci, Chef Damien, d'avoir été avec nous. Vous vouliez réagir, Sarah Missaoui, puis on rejoindra Benoît Donofrio dans un instant. Allez-y.
Oui, c'est vraiment le sujet, la question qu'on nous pose souvent chez Déjà Bu. En fait, on nous dit, mais c'est génial, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ces boissons ailleurs? En fait, les clients sont très demandeurs. S'il y a une offre qualitative, ils vont aller vers cette offre sans alcool. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on va dans un restaurant qui n'est pas étoilé ou gastronomique, l'offre de sans alcool, c'est des softs soda et jus de fruits, et aucun adulte ne prend plaisir à boire ça. C'est faux de penser que c'est une offre qualitative. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait.
C'est cher, une bouteille, Augustin Labour?
Alors, ça dépend un peu de ce que vous buvez. Nous, on est plutôt sur des productions, enfin, au Panqui Bois, des productions artisanales, en petit volume, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, le pétillant que vous êtes en train de boire, il est autour de 16 euros. Cette boisson, oui, cette boisson-là au piment, elle est à 15 euros. Okay. En gros, les vins commencent autour de 10 euros. Les infusions, etc., c'est un petit peu en dessous. Ça dépend un petit peu. C'est comme, en fait, chez votre caviste traditionnel indépendant, en fait.
Mmh. Ça veut dire que pour passer le cap du très grand public et qu'il y en ait partout,
les prix sur certaines boissons commencent à diminuer parce que le volume de production augmente. Donc, on fait des économies d'échelle. Donc, sur certaines boissons, on voit que malgré l'inflation, le contexte, etc., les prix commencent à baisser.
Après, il ne faut pas oublier qu'on ne vend pas des sodas. Ah oui. On vend des boissons artisanales, des boissons qualitatives avec des bons ingrédients, des boissons qui demandent du travail parce que désalcooliser, ça a un coût. Mm-hmm. Et ça, il faut le prendre, faut prendre en compte,
considération,
bien sûr. Donc souvent, on nous dit oui, c'est plus cher qu'un jus de fruits, mais en fait, ce n'est pas ce qu'on vend.
Mm-hmm. On est ravis d'accueillir Benoît Donofrio avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne, merci. Bonsoir Sarah, bonsoir Augustin.
Bonsoir. Merci à vous aussi Benoît Donofrio de nous donner un petit peu de temps pendant le coup de feu. Vous avez inventé votre propre métier, vous êtes désormais sobrelier, alors vous êtes toujours sommelier mais surtout sobrelier. Et ce que je trouve formidable, et c'est pour ça qu'on tenait à vous avoir, c'est que quand on mange sans alcool, on est privé du sommelier en fait. Et c'est tellement important, c'est tellement magique le moment du sommelier quand on va au restaurant. Au fond, vous nous rendez l'expérience d'un grand restaurant, y compris sans alcool. Est-ce que c'est aussi l'idée que vous aviez quand vous avez inventé votre métier, Benoît Donofrio ?
En réalité, je n'ai pas inventé mon métier. J'ai nommé plus spécifiquement le vrai travail du sommelier ou de la sommelière. Être sommelier ou sommelière, étymologiquement, d'une part, ça ne renvoie pas du tout à la boisson. On voit à la fonction originelle qui était celle d'un intendant ou d'un intendant dans une cour de notables au XIVe siècle. Progressivement, ça a évolué et c'est vrai qu'au fil de l'histoire, on a oublié que la sommelière ou le sommelier, lorsque ce sont devenus des agents préposés au service de la boisson, au sens large, n'étaient pas spécifiquement dévoués au service du vin ou des autres alcools. Donc finalement, être sobrelière ou sobrelier, c'est être un vrai sommelier ou une vraie sommelière. Et le travail que je fais aujourd'hui consiste simplement à donner de la visibilité à part égale,
entre
aux boissons non alcooliques et aux boissons alcooliques.
Est-ce que...
Mais encore faut-il ne pas proposer n'importe quoi en matière de boissons non alcooliques.
Est-ce que, justement, d'abord, est-ce que désormais, on vous regarde plus, Benoît Donofrio, comme une sorte d'extraterrestre ? Vous avez le sentiment, on en parlait tout à l'heure avec nos autres invités, que les choses commencent à avancer et que même on s'intéresse vraiment à ce que vous proposez. Donc, est-ce que ce pas-là, il a été franchi, à votre avis ?
Moi, ce que je constate, c'est qu'en réalité, je ne fais que permettre à des gens qui, de tout temps, ont pu faire autre chose que de boire de l'alcool. En fait, de tout temps, même quand on boit de l'alcool, il nous arrive de pas en boire. Et moi, je veille à proposer des boissons qui s'adressent aussi bien aux personnes qui ont pris le parti de ne plus boire pour une période comptée ou indéfiniment, qu'aux personnes qui habituent boivent de l'alcool et ils viennent au restaurant en pensant vouloir ou devoir parfois boire encore de l'alcool. Et je crois que ça, c'est très intéressant, c'est de se dire que la boisson non alcoolique, elle n'est pas faite pour les personnes qui se privent, les personnes qui souhaitent renoncer. Oui. Elle est faite aussi pour être un vecteur de découverte, une passerelle vers de nouveaux horizons.
Et pour un autre plaisir.
C'est de la pédagogie.
Dites-nous ce qu'il y a dans vos bouteilles, là, par exemple, en ce moment que vous êtes au restaurant. Qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors, d'une part, toutes les cuvées sont issues d'un processus de fermentation spontanée où seules les levures et les bactéries présentes dans l'environnement naturellement vont se nourrir exclusivement des seuls nutriments contenus dans les mêmes végétaux qui constituent donc les cuvées que je propose. En ce moment, j'ai une cuvée que je sers chez Ogata, donc à Paris, dans le 3e arrondissement, qui a pour nom courge de lard et qui est à base de potiron, de patates douces et de bourgeons de sapin, avec un peu de pommes. J'ai également une cuvée intitulée Monte en prune, qui est à base de prunes, également de... Qu'est-ce qu'il y a
plein de choses, plein de choses et plein de saveurs.
Il y a beaucoup de choses. En tout cas, je ne discrimine aucun végétaux. Il y a des céréales, il y a des fruits, des légumes.
Benoît Donofrio, il y a une question de Maxime à Toulouse et je pense que vous allez pouvoir y répondre. Après, je vous laisse partir, je vous le promets. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous, moi j'ai une question. En fait, est-ce qu'on peut retrouver dans des boissons non alcoolisées un petit peu la complexité, un petit peu les variétés qu'on peut retrouver par exemple dans les vins aujourd'hui? C'est-à-dire, je m'explique, j'ai l'impression qu'il y a une petite barrière à l'entrée pour cette nouvelle boisson, parce que dans le vin, il y a 2000 ans de patrimoine, il y a le choix du terroir, parfois le choix des fruits. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver ça et cette diversité pour un petit peu, je suis moi-même flexibuveur, mais plutôt pour la raison alcool, pas alcool. Mais c'est un petit peu ce qui manque sur le côté non alcoolisé, cette diversité.
Elle est bonne cette question, Maxime, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Benoît D'Onofrio, à Maxime? Est-ce que cette complexité-là ne s'est pas perdue?
Oui, évidemment. Et d'ailleurs, la majorité des produits proposés en sans alcool dans la majorité des commerces ne permettent pas de refléter l'expression d'un terroir. Pour ma part, les cuvées de sobreuvage, qui sont donc les boissons que j'élabore, sont issues de produits positionnés en un même endroit. À chaque fois, pour chaque cuvée, les légumes, les fruits, les céréales, les plantes proviennent d'une même parcelle de maraîchage. Et je suis attentif à la manière dont la fermentation va pouvoir leur permettre d'exprimer ce que le climat, ce que la qualité de sol, ce que la variété de fruits et ce que l'intention de la maraîchère ou du maraîcher a pu conduire jusqu'au point de récolte.
Ça veut dire pouvoir raconter une autre histoire, exactement comme on raconte l'histoire de celui qui récolte le vin, on raconte une autre histoire. Benoît D'Onofrio, je vous laisse retourner à votre travail, je vous remercie mille fois pour votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci
à vous, vraiment. Augustin Laborde, je vous ai vu réagir.
Oui, je voulais juste rebondir sur la question de Maxime. En fait, c'est vrai que voilà, le vin, ça fait 2000 ans qu'on fait du vin. Le sans-alcool, tel que nous on le conçoit, ça fait grand maximum 10 ans, donc il faut être un peu indulgent et surtout, il faut se dire que ça évolue à une vitesse grand V en termes de quantité et de qualité. Très concrètement, quand nous, on a ouvert il y a 4 ans maintenant, on avait 250 boissons et on avait un peu ramassé ce qui se faisait, enfin, repéré ce qui se faisait de mieux. Maintenant, on en a plus de 500, donc c'est vraiment signe que l'offre se diversifie, se complexifie et surtout, on va vers du moins sucré, encore une fois, du fait en France. Enfin, il y a vraiment quelque chose de passionnant qui se fait et nous, on est convaincus qu'on n'est qu'au début. C'est pas une mode, le sans alcool, ça va s'inscrire sur le temps très long.
Je suis assez intrigué par la chose un peu poivrée que vous nous avez avec laquelle vous nous avez fait envie. Pardon, allez-y Sarah Missani, après j'ai une question pour vous.
Et en attendant, juste dire à Maxime, les barrières, on se les impose, il n'y a pas de barrière à l'entrée, venez tester, il y a des terroirs, alors peut-être pas sur du vin, mais par exemple, je sais que moi je vends des thés, et on retrouve des terroirs, on retrouve des millésimes, on retrouve des caractéristiques spécifiques.
Mais ce que je trouve intéressant en fait, c'est que mais vous savez, c'est comme quand on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique en fait, au fond. On veut bien changer, mais il faut que ce soit exactement la même. Exactement là, en fait, le pas qu'on n'a pas encore franchi, peut-être c'est ça.
Oui.
Il faut que ce soit la même expérience.
C'est
absolument
humain.
Exactement. Pour qu'on ait le sentiment vraiment de vivre la même chose. Après, ce que je trouve fascinant, c'est les mots. Tout à l'heure, Benoît D'Onofrio nous parlait de sa cuvée.
Oui.
Vous travaillez tous les deux dans des caves, vous avez des caves.
Oui.
Donc on a gardé ce vocabulaire-là, alors qu'en réalité, il ne s'adapte pas du tout à ce qu'on a dans le verre, finalement. Mais je trouve ça intéressant, vous avez gardé le vocabulaire, non?
Ouais, alors, la difficulté, je pense, pour nous deux, c'est que on est des boissons spécialisées d'un nouveau genre.
Ah ouais, nouveau genre. Je suis en train de tester celui-là, très très nouveau genre. Ouais.
Voilà, on propose des boissons d'un nouveau genre. Ce que j'ai remarqué, c'est que les clients, ils s'attachent beaucoup à ce qu'ils connaissent. C'est rassurant. C'est pour ça que Maxime pense qu'il y a des barrières. Il n'y a pas de barrières. Et effectivement, quand on goûte un vin et qu'on a l'habitude de boire du vin, ben c'est plus du vin.
Très poivré, un peu piquant, si je puis me permettre.
Exactement, c'est carrément pimenté.
Ouais, ça pique
pimenté,
un peu. Pimenté
sur les de Scoville, on est à peu près à la moitié, donc c'est relevé. En fait, une des difficultés du sans-alcool, c'était... Oui, c'est dilué quand même. Une des difficultés du sans-alcool, c'est que vous avez une longueur en bouche qui est souvent plus courte, justement, vu qu'on retire l'alcool ou qu'il n'y en a jamais eu. C'est plus court en bouche. Donc, en fait, une des possibilités, c'est de... une subterfuge ou autre, mais c'est de mettre du piment, du poivre, etc. Effectivement, le côté pimenté peut faire...
Vous toussez.
Donc l'idée, et puis là aussi on n'est qu'à l'aube du début sur les boissons en termes de piment, on voit que ça arrive. Donc voilà, l'idée c'est comment on recrée de la complexité et surtout de la longueur en bouche.
Voici Brigitte qui est avec nous. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
On vous écoute.
Ben moi je fais par exemple un Noël pour les gens qui sont tout seuls dans ma ville et on va avoir une quinzaine de personnes samedi. J'ai pas acheté d'alcool. Moi, personnellement, je suis médecin généraliste, je suis personnellement flexibuveuse, mais je trouve ça très oppressant de se dire on peut pas faire la fête sans alcool. Moi je trouve trouve que c'est un non-sens. Faire la fête, c'est pas se saouler. Les saveurs, on peut en trouver dans des tas de boissons. Donc j'ai adoré le sujet de votre émission. Je me suis dit, enfin, on se dit, boire des tas de boissons différentes. Par exemple, du vin sans alcool, j'ai goûté dans un départ d'une collègue qui est partie du cabinet. Et je me dis, ah mais ça, c'est génial, ça a du goût. Et voilà, c'est ça que je trouvais qui était bien, c'est de sortir de cette un peu obligation de l'alcool dans la fête. Je trouve
merci
ça oppressant.
Beaucoup, merci pour votre témoignage, Brigitte. Il y a quelque chose de générationnel ou pas?
Oui
est-ce
et non.
Est-ce que c'est la jeune génération qui pousse?
Ils ne viennent pas pour les mêmes raisons, je pense.
Oui, exactement.
Selon l'âge.
Okay. Beaucoup de personnes dans les 20-30 ans qui sont curieuses de tester des nouveautés.
J'allais dire, parce que statistiquement, c'est chez les jeunes qu'on boit de moins en moins, et qu'on ne boit pas de vin surtout, qu'on n'a pas cette culture-là. Donc est-ce que c'est eux qui poussent aussi?
Mais passé 60 ans, on ne peut plus boire d'alcool parce qu'on en a trop bu et qu'on,
exactement,
et qu'on a
aussi
des risques liés à la santé.
C'est quand même très pimenté,
Oui, c'est revêt, vous pouvez le rallonger, mais c'est quand même... Oui, non, vous voulez quelque chose que vous sentiez payer pour votre argent, entre guillemets.
Mais absolument, je sens.
Mais surtout, ce qui est intéressant dans le sens d'alcool, c'est qu'on a enfin des boissons en fait que toute la famille peut boire. Alors, nous, on ne cible vraiment pas du tout les enfants, donc on va vraiment parler des adultes, mais que tout le monde peut boire, comme vous l'avez rappelé, les femmes enceintes. Là, c'est fini, la femme enceinte, un peu en bout de table à Noël, qui est un peu toute seule. La personne qui a un problème avec l'alcool. Enfin, non, là, enfin, on a un produit qui rassemble toute la famille, et ça, quand on y réfléchit, on n'en a pas beaucoup, que ce soit dans l'alimentation, encore moins dans l'alcool, etc. Donc, il faut profiter de se boire ensemble, vivre ensemble, etc. Et oui, la fête, alors, sans alcool, n'est pas forcément plus folle, pas du tout. Elle est juste différente, elle est très sympa, on se rappelle de ce qu'on dit, on se rappelle des moments qu'on vit, donc ça vaut le coup vraiment de tester, quoi.
Est-ce que, donc, ce verre-là, par exemple, est-ce que je peux le partager avec les enfants, s'il faut, ou est-ce que, justement, exactement comme le vin, en fait, où les enfants restent sur leur soda et les adultes boivent dans leur verre à pied.
Alors peut-être que la boisson pimentée, c'est...
Alors celle-là, c'est pas forcément le bon exemple.
C'est pas ce que je ferais goûter à mes enfants ou neveux et nièces, etc. Mais on peut leur faire, enfin les éduquer en fait, tout simplement à la boisson. Encore une fois, au point qu'ils boivent, c'est pas du tout notre clientèle, on en a très peu. Ouais. Et quand ils viennent avec leurs parents, ils choisissent une petite limonade, ce genre de choses.
Comme en général chez les cavistes.
On s'adresse aux adultes, mais moi je trouve ça très intéressant, et encore une fois je le fais avec les gens de ma famille, de les éduquer en fait à des boissons qui soient pas sucrées déjà, et avec des goûts un peu complexes, qu'ils connaissent pas forcément. Alors ils vont pas adorer, tout le monde a le droit de pas aimer, tout le monde a le droit de pas aimer, mais au moins de découvrir et de se former, il faut se former le palais en fait.
C'est des goûts qui sont compliqués pour les palais des enfants.
Ils cherchent du sucre, ils cherchent du fruit, et en fait c'est pas vraiment notre source, encore une fois, on vend pas des jus de fruits, donc oui, on a parfois des petites limonades, des colas, qui peuvent leur plaire, mais globalement, que ce soit le vin désalcoolisé ou la boisson au piment, je pense qu'un enfant...
Il y a beaucoup de questions sur le vin désalcoolisé. Il y a Christine, notamment sur WhatsApp, qui nous dit « J'ai vu des vins sans alcool, mais il y a quand même beaucoup d'additifs. » Qu'est-ce qu'on répond à notre amie Christine ?
Alors, il y a, des conservateurs, etc. Enfin, en termes de technique, il faut se dire qu'on part du vin classique, donc c'est vraiment la même production, sauf qu'on va le désalcooliser, et l'idée, c'est de chauffer le vin. Et après, parfois, on va le rééquilibrer avec du moût de raisin, ce genre de choses. Alors, on a à nouveau des vins qui peuvent être certifiés bio depuis quelques mois, donc on va encore une fois vers du qualitatif. La production est de plus en plus, enfin la désalcoolisation est de plus en plus faite en France aussi, là où avant c'était fait en Allemagne, etc. Donc on revient en France là-dessus, et les processus s'améliorent. Alors oui, il y a certains conservateurs, mais très peu en fait, et il y a des sulfites, ça c'est vrai. Là aussi, il y en a de moins en moins. C'est vraiment plus une problématique de conservation, etc.
Sarah Missaoui, puis on retourne au standard.
Ouais, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que nos produits sont considérés comme des produits de grande consommation. Donc sur l'étiquette, c'est totalement transparent. Il y a la liste des ingrédients, il y a les informations nutritives, ce qu'il n'y a pas forcément sur les vins. Donc parfois, on boit des vins, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Et ça, c'est vrai.
Il arrive qu'il y ait des choses pas très naturelles non plus.
Nicolas, vous êtes en Touraine et on vous salue. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette émission, ça fait super plaisir de partager votre table, ça donne envie.
Venez, j'en ai un très piquant là.
Si vous voulez, il y a un chardonnay, si vous préférez adoucir.
Simplement, j'ai une question sur le prix, parce que je me dis que quand à la fin, sur une carte, dans un restaurant par exemple, c'est la pinte de bière qui reste la moins chère, en tant que flexibuveur, on a peut-être tendance à garder les habitudes alcoolisées. Et c'est aussi le prix qui incitera à tester ces saveurs qui, vraiment, je répète, ont l'air très conviviales et ça donne vraiment envie de tester. Mais cette question du prix.
Qui répond à la question de Nicolas?
On va être d'accord. Le prix est encore peut-être un peu élevé, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on en consomme de plus en plus va faire que les volumes vont augmenter, donc on va pouvoir enfin faire des économies d'échelle. Mais très concrètement, par exemple, sur la bière, moi je rêve et je sais qu'on va y arriver très bientôt d'avoir des fûts de bière sans alcool à la pression, du coup, et qui permet aussi d'être compétitif en termes de prix avec la bière avec alcool, du coup.
C'est marrant parce que dans les messages qu'on reçoit sur WhatsApp, j'aime beaucoup boire de l'alcool, mais je suis heureux de découvrir parfois de nouvelles boissons sans alcool. Ma première découverte a été, alors je sais pas ce que c'est, la simple, que vous savez ce que c'est,
ouais,
ou pas?
C'est voilà, une infusion, c'est des infusions.
Voilà, une marque simple, pas trop de sucre, vraiment savoureuse, un plaisir à l'apéritif. Est-ce que, par exemple, quand on parle de choses qui sont à base d'infusion, de choses comme ça, est-ce que c'est forcément froid ou est-ce que ça peut être chaud, par exemple, autour d'un repas ou pas?
Bonne question. Moi, je vends essentiellement, je pense, des infusions froides. Après, on a pas mal de concentrés qu'on peut diluer aussi avec de l'eau chaude. Donc, ça pourrait se faire. C'est vrai que les accords mets-été, c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps et qui était un peu l'alternative sans alcool jusqu'à ce que ces nouvelles boissons arrivent sur le marché. Donc, ce n'est pas des produits que je vends, mais je pense que ça existe.
Oui, et puis il y a quelques boissons qu'on peut boire chaudes, je pense notamment en ce moment, et ça marche très bien, le vin sans alcool, le vin chaud sans alcool, ça fonctionne très bien aussi. En ce moment, on a un cocktail, par exemple, à base de cannelle, qui peut lui aussi être bu chaud. Donc ce ne sera pas forcément une infusion, c'est juste une autre boisson possible.
Ouais. Est-ce que les endroits comme les vôtres, par exemple, les caves, comme ça, commencent à se multiplier également ou pas?
Oui, il y en a. Donc voilà, quand nous on a ouvert, on était les premiers il y a 4 ans, et maintenant je crois qu'on a autour de 40 en France, y compris dans des zones rurales, etc. Donc c'est pas réservé,
y compris dans des zones avant.
Ah bah oui, non, mais Bordeaux,
partout. Donc non, ça se diversifie, puis surtout on voit que des cavistes plus traditionnels, donc avec alcool, commencent aussi à avoir un rayon sans alcool intéressant, réfléchi, etc. Évidemment, grande distribution, c'est la part de marché qui augmente le plus vite, donc il y a les rayons de sans alcool se développent aussi. Donc vraiment, ça commence à infuser un peu partout. Quoi.
Parce que vraiment, ce qui est intéressant, en effet, c'est jusqu'à quel point, en fait, on finira par sortir du produit vin pour être sur tout à fait autre chose, exactement comme on le disait tout à l'heure, il y a le vin sans alcool, la bière sans alcool, passons même à un autre exercice complètement différent en fait.
Je ne sais pas s'il faut vraiment en sortir.
Est-ce qu'il faut, j'en sais rien, c'est vraiment une question.
Je pense que les techniques, en plus elles évoluent. Je pense que pour les vignerons c'est aussi important. Tous ceux qui proposent des vins désalcoolisés aujourd'hui, c'est aussi pour eux une nouvelle source de revenus. On connaît la crise viticole que traverse le pays.
On sait qu'il y a des arrachages pour cause de manque de consommation.
Donc je pense que c'est aussi important de garder ce produit. Alors, je sais que les amoureux du vin ne sont pas d'accord. Moi, je leur dis souvent, mais continuez de boire du vin. Si vous aimez boire du vin et que vous savez boire du vin et que c'est votre plaisir, bah, continuez. Mais ça n'empêche que je pense que c'est important de garder ça. En plus, on fait des bons produits. On a des très bons produits en France qui commencent à rayonner à l'international. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Mais c'est sûr que la créativité, là, amène de nouvelles boissons tous les jours. On en reçoit tous les jours, je pense que c'est pareil pour Augustin. On nous propose des nouvelles boissons, de nouvelles choses à base de tous les ingrédients possibles.
Et vous savez dire désormais, quelqu'un qui vient, ça pour l'accorder avec tel plat, vous allez voir, ça marchera très bien. Ça aussi, on apprend à le dire, on apprend à le faire avec, avec ces nouvelles boissons.
Beaucoup avec la pratique aussi, encore une fois, c'est nouveau, donc il faut tester. Parfois ça marche pas, parfois ça marche super bien. Il faut s'amuser aussi.
Amusons-nous, c'est le maître mot. Les amis, je vous remercie beaucoup de votre participation à ce téléphone sonne. Merci à tous pour vos appels.